comme nous venons de le chanter, Seigneur Jésus, nous voudrions que tout en nous soit à toi. Nous ne nous appartenons plus, Père éternel. Nous ne sommes que des administrateurs de biens que tu nous as donnés. Alors, Seigneur, nous venons devant toi pour te dire vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Nous n'avons rien mérité. Tout n'est que grâce. C'est par ta grâce, Père éternel, que nous avons pu arriver en ces lieux. Et comme tu nous as permis d'être là, nous sommes dans la joie, Père, de te dire merci parce que tu nous as invités autour de ta table pour que tu puisses encore, Père, nous indiquer ta volonté en ce jour trouble, Père. Merci pour nous qui sommes autour de la table, Seigneur. Merci aussi pour ceux qui ne sont pas les nôtres ce soir. Toi seul, tu sais le pourquoi de leur absence. Maintenant, Père, nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous. Merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. Maintenant, l'heure d'écouter la parole est arrivée. Nous t'invitons de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Tout le monde peut lire, mais il n'y a que toi qui peux l'expliquer, Père éternel. Il n'y a que toi qui peux convaincre ton peuple. Il n'y a que toi qui peux enseigner. Il n'y a que toi qui peux instruire. Que l'homme que je suis, je puisse me taire et que le Saint-Esprit prenne la place qui lui revient. Père, laisse que tes enfants puissent aussi écouter comme écoutent les disciples, Seigneur. C'est cela ma prière. Sois-nous favorable, Père. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ encore ce soir. C'est un grand privilège pour nous ce soir d'être autour de la table du Seigneur. Parce qu'autour de la table du Seigneur, il n'y aura jamais de déception, n'est-ce pas? Parce que lui, il est fidèle. Et comme il est fidèle, il est toujours présent. Jamais il y rate. D'ailleurs, il est écrit dans la parole, de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées à travers son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet, n'est-ce pas? Et c'est cette même parole qui a tout créé. Alors ce soir, nous avons le privilège d'être visités par un enfant de Dieu qui vient de très loin. Je veux l'inviter à venir vous dire bonjour, qu'il se présente lui-même. Frère, vous venez dire bonjour à tes frères. Merci mon frère. Voilà, il faut toujours être zélé et avoir un esprit fervent. Tu vois comment tu as été en retard, Fabrice. Voilà, c'est le frère Christian, il vient de l'Afrique du Sud. Donc nous avons la joie aussi de l'accueillir parmi nous, n'est-ce pas? Comme je pense que c'est aussi un serviteur de Dieu en Afrique du Sud. Comme il est là, il nous a rendu visite, nous l'accueillons de tout notre cœur. Sois le bienvenu parmi nous, mon frère. Très bien. Bien-aimés en Christ, ce soir, c'est encore une grande joie de me tenir devant vous pour que nous puissions voir ce que le Seigneur, ou entendre plutôt, ou écouter ce que le Seigneur a envie de nous dire. La fois passée, nous avons vu les moyens dont nous pouvons disposer pour que nous puissions témoigner. On a vu deux moyens par l'exemple et par le prestige, par le « il faut être exemplaire ». Exemplaire dans tout ce que l'on peut faire parmi les gens qui nous entourent. Et le deuxième moyen, je pense, c'était le précepte. C'est ça. Alors là, c'était dans le cadre de notre thème qui est la responsabilité qui nous a pris beaucoup de temps depuis le mois de juillet de l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes encore dans ce thème de la responsabilité. Nous avons tourné ce thème dans plusieurs facettes. Alors, aujourd'hui, je vous invite à vous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Tout le monde y est? Lisons ensemble. Lisons ensemble. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Alléluia. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La parole de ce soir, j'aimerais l'intituler de la manière suivante. À la première question, c'est-à-dire à partir du verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » C'est le titre de ce soir. « Paix mes agneaux. » La fois passée, avec mon esprit limité, je suis allé trop vite en besogne en disant, nous allons tirer les rideaux sur ce thème de la responsabilité, n'est-ce pas? J'ai dit, alors, on tire les rideaux. C'était le mercredi passé. Malheureusement, pauvre frère, il y a quelque chose qui m'a dit, mais hé là, je sais que maintenant, tu peux comprendre ce que veut dire « Allez, faites des disciples. » Je peux comprendre que vous êtes maintenant à même de savoir comment servir le Seigneur. N'est-ce pas? On doit avoir du zèle et avoir un esprit fervent. Très bien. Il nous a dit « Vous serez mes témoins. » Toujours dans le cadre des applications de ces thèmes, vous serez mes témoins. Mais avant d'être mes témoins, vous devez attendre. N'est-ce pas? Une puissance qui viendra sur vous. Et nous avons vu que cette puissance avait 4 missions à réaliser. N'est-ce pas? 4 missions. Convaincre, enseigner, rappeler et puis révéler ce qui devait venir. C'est bien. Et nous comprenons que le Seigneur a dit que nous étions ses serviteurs. Et il a dit, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Très bien. Et dans ce service-là, il était question. Le Seigneur, un jour, répond à Pilate. Il lui dit, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité, n'est-ce pas? Et nous aussi, en tant que ses serviteurs, nous devons être capables de rendre témoignage de la vérité. C'est bien. Vous avez rendu témoignage de la vérité, vous avez croisé les incroyants et vous avez bien répondu à la question de l'incroyant, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Alléluia. Et vous avez répondu à cette question. Et quand le juif écoute le discours de Pierre à la Pentecôte, la Bible témoigne qu'ils eurent le cœur vivement touché. N'est-ce pas? Et ils se sont posé la question. Mais que devons-nous faire? Pierre a répondu. Pierre a répondu d'une manière claire. Oui, mais maintenant, ces gens qui ont le cœur vivement touché, qui se repentent, qui se font baptiser, qui arrivent maintenant à l'Assemblée. Mais qu'allez-vous faire de ces gens? Qu'allez-vous faire de ces gens à qui vous avez témoigné? Ils étaient convaincus que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ils se sont dit, ok, nous prenons la décision de servir le Seigneur. Et j'attends toujours, hein, puisque nous avons reçu des cartes, j'attends toujours que le travail soit fait. Ça ne sera pas fait par une autre personne. Ce travail sera fait par toi et moi. Et c'est un challenge. Quand ils viennent, qu'est-ce que toi et moi, nous allons faire de ces gens à qui vous avez témoigné que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Ils sont venus. Alors ici, ce soir, dans les 3 versets que nous venons de lire, nous avons le verbe « paître ». Paix, mais et brebis. Et ici, en vérifiant, le verbe paître est à l'impératif présent. À ne pas confondre le verbe paître qui est conjugué au temps présent à la même structure que l'impératif. Quand le verbe paître est conjugué au temps présent, vous aurez la même structure comme à l'impératif. Il faut faire attention. On dit à Pierre, paix mes brebis. Donc Pierre reçoit un ordre précis de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Celui de paître ses agneaux et ses brebis. Je veux qu'on relise encore ces 3 versets. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Paix mes brebis. » Alléluia. Nous pouvons constater que le Seigneur pose à Pierre la même question trois fois. Alléluia. D'ailleurs, au verset 17, il est écrit, « Pierre fut attristé. » Parce que le Seigneur lui a posé cette question trois fois. « Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Cette question, quand j'étais chez moi, cette question impliquait un doute sur la réalité de l'amour de Pierre. Pourquoi ? Nous devons nous souvenir de la réponse prétentieuse que Pierre avait donnée dans Matthieu 26, versets 33 à 35. Où sont-ils? Marie-Élise, tu peux faire ce travail ou pas? Non. Matthieu, quand nous allons dans Matthieu 26, allons voir la réponse que Pierre avait donnée. Matthieu 26, versets 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » 35. Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Voyez-vous? Voyez-vous? Moi, je ne te nierai pas. Donc, trois fois, nous pouvons remarquer que Pierre avait nié le Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit aimer le Seigneur trois fois de suite aussi. Alléluia. Et à la troisième fois, le Seigneur va lui confier, à trois reprises aussi, le Seigneur va lui confier la responsabilité de prendre soin de son troupeau. Alléluia. Trois questions. À trois reprises aussi, le Seigneur va confier à Pierre la responsabilité de prendre soin de son troupeau. Et son troupeau est constitué de agneaux et de brebis. Alléluia. Frère Albert, je vois bien que il est clair ici. Hein. Moi, je n'ai rien à faire. Je ne suis pas concerné dans cette affaire, n'est-ce pas? Parce que c'est clair. C'est à Pierre qu'on a confié cette responsabilité de prendre soin du troupeau. Je pense que c'est le contraire qui est vrai. Quand tu me dis ça, frère Albert, moi je ne suis pas concerné, je pense que c'est le contraire qui doit être vrai. Nous pouvons lire un peu dans Exode 17. Pour appuyer ce que je viens de dire. Exode 17. Exode 17, verset 12. Donc, on commence au verset 11 jusqu'au verset 13. Vous y êtes? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Alléluia. Aaron et Hur représentent quoi ici? Aaron et Hur représentent quoi ici? Dans ce que nous venons de lire. Je déduis ici, Aaron et Hur représentent l'Église qui doit secourir et fortifier les pasteurs dans son ministère. Alléluia. C'est une coopération nécessaire pour le succès de l'œuvre du Seigneur. Alors, à mon humble avis, mon frère, ma sœur, il faut repousser l'idée que c'est au pasteur seul de faire le travail. Question. Un général peut aller seul à la bataille? Un général peut aller seul à la bataille? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu es prêt, hein? Je suis prêt à me plaindre. Que l'Église est endormie, rien ne va, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, mais Tu ignores gentiment que toi tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu penses que venir assister à la prédication, par exemple ce soir, ou le dimanche matin, et puis de temps en temps payer ta dîme, de temps en temps donner tes offrandes, tu as déjà beaucoup fait pour toi. Tu as déjà beaucoup fait. Alors le reste, le passé, il a son salaire alors qu'il crève sur le poids du travail. C'est son affaire avec les diacres et tout ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je paye ma dîme, je paye mon offrande, ça suffit. Frère, si c'est ainsi que tu attends que tu sois enlevé, c'est vraiment marrant pour toi. Et c'est vraiment marrant pour moi aussi. Nous devons faire très, très attention. Le travail, quand nous voyons Hur et Aaron, nous aussi, nous devons être dans cet état-là. Là où le moyen existe, mon frère, ma sœur, Dieu veut qu'on les emploie. Alléluia. Je dis bien, là où les moyens existent, Dieu veut qu'on les emploie. Alléluia. Frère, je dois vous le dire. Moi, par vocation, je ne suis pas berger. Désolé. Par contre, je suis l'assistant de celui-ci pour prêcher. Et quand je dois prêcher, ça sera toujours d'une manière franche. Toujours d'une manière franche. Alors toi, si tu estimes que, après avoir payé ta dîme, donné ton offrande, les restes en tout cas, je ne suis pas concerné, tombeau est là. Il viendra arranger les chaises, il viendra faire ceci. Donc l'homme a tout fait. Toi, tu n'es pas concerné. Non, messieurs. Non, messieurs. C'est une coopération qui est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu ait du succès. Alléluia. Pierre, paix mes brebis. Pierre, paix mes agneaux. Je vous dis toujours, chaque mot contient un sens. Et là, je suis allé interroger mon ami Robert pour qu'il puisse me dire, parce que je ne me fie pas à ma première impression, que Robert me dise un peu, me définisse un peu une brebis. Robert me dit, une brebis femelle adulte du mouton. Pour être cru, c'est la femme du mouton. Alléluia. Agneau. Petit de la brebis. Tout le monde a entendu? Brebis, femelle adulte du mouton. Agneau, petit de la brebis. Avec cet éclairage de Robert, nous pouvons comprendre que le Seigneur désigne incontestablement par brebis et agneaux les membres de son Église. Alléluia. Donc, dans son Église, nous trouvons des brebis et des agneaux. Alléluia. Les agneaux représentent probablement les nouveaux convertis. Ceux qui n'ont que peu d'expérience dans la marche chrétienne. Alléluia. Et ceux-là ont besoin qu'on leur prodigue une attention particulière pour qu'ils soient préservés du mal et être formés pour devenir utiles et adultes, afin qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent témoigner de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Alors ceci me conduit naturellement à considérer la manière d'agir avec les nouveaux convertis et les instructions à leur donner. Brebis et agneau. Donc à ce niveau de notre causerie ce soir, j'ai pour but de montrer deux choses. Je ne sais pas si nous pouvons arriver à atteindre ces objectifs ce soir. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas de souci. J'ai pour but de montrer, un, c'est qu'il est indispensable d'enseigner aux nouveaux convertis. Ça, c'est le premier point. Indispensable aux nouveaux convertis. Deux, c'est qu'il ne faut pas leur enseigner. Ça va? C'est qu'il est indispensable d'enseigner aux nouveaux convertis. Et le deuxième point sera, c'est qu'il ne faut pas leur enseigner. Mais ce soir, nous allons nous occuper de ce premier point. Ce qu'il est indispensable d'enseigner aux nouveaux convertis. Frère, avant d'entamer ces points, je voudrais quand même faire remarquer que le caractère du nouveau converti sera moulé et façonné selon la manière dont on a agi à son égard au moment de sa conversion. Alléluia. Je répète. Le caractère du nouveau converti sera moulé et façonné selon la manière dont on a agi à son égard au moment de sa conversion. C'est très, très important, cette affaire. Alors, quel est, dans ces premiers points, le premier point, j'en ai épinglé, comme d'habitude, 5 ou 6, selon l'utilité. Premier point, on doit apprendre aux nouveaux convertis en quoi consiste la piété. Je dirais que ça, c'est la maison. La piété, c'est la maison. Et dans la maison, nous aurons plusieurs chambres. Alléluia. Prenez ça comme ça. La piété sera donc la fondation quand un nouveau converti est parmi vous. La première des choses que ce nouveau converti doit apprendre, c'est la piété. Piété, selon la parole, signifie honorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force, selon Marc 12, verset 29 à 31. Le Seigneur répond à une question. Voici la question au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, verset 29, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » 30, « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Jésus reprend Deutéronome 6, verset 5, n'est-ce pas? Alors, cette piété se manifeste par les gestes, par l'amour fervent pour Dieu. C'est pour cela que je disais, la piété, c'est la fondation. La fondation doit être solide. Quand la fondation est solide, nous pouvons maintenant ériger nos murs avec un sentiment de confiance. Alléluia. Donc, il est d'une grande importance, mon frère, ma sœur, que le nouveau converti soit de bonne heure mis à même de comprendre en quoi consiste la piété. De bonne heure, je dis bien. En quoi consiste la piété? Beaucoup de gens ont absorbé tant de notions sur la piété que non seulement le nouveau converti, mais une grande partie des membres des assemblées aussi ne savent en quoi consiste réellement la piété. Parfois même, je n'ai pas honte de le dire, parfois même au niveau des enseignants. C'est pour cela, dans la prédication, l'évangélisation est à la fin, qu'est-ce que le messager a dit? Quand on voit tout ce qui est là, le monde qui est en train de se disloquer, c'est à cause de la délinquance parentale et de la délinquance qui se dégage au niveau de la chair. Alléluia. On laisse faire. On ne dit pas les choses d'une manière franche. Frère, la piété ne consiste pas en connaissance doctrinale. Ah, La piété ne consiste pas en connaissance doctrinale. Attention, la connaissance est essentielle à la piété, mais ne pas la piété. Alléluia. Parce que Satan a une connaissance doctrinale parfaite plus que toi et moi. Alléluia. Mais il n'a pas de piété. Alléluia. Il n'a pas de piété. Alors, il faut faire très, très attention. Vous voyez? En bref, la piété, c'est l'obéissance à Dieu, la soumission volontaire de l'âme à sa volonté, point barre. C'est ça ou rien. On n'argumente pas. Quand vous aurez placé cette fondation, vous pouvez maintenant songer. Vous pouvez maintenant penser à ériger vos murs. Deux, on doit enseigner aux nouveaux convertis à avoir une hygiène spirituelle convenable. Alléluia. Une hygiène spirituelle convenable via deux éléments dont on a parlé pendant 3 mois l'année passée, du 6 avril 2022 jusqu'au 7 juillet 2022, c'était le thème de la purification et de la sanctification. Alléluia. Donc il faut que le nouveau converti comprenne s'il veut voir Dieu. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qui va se passer? Ils verront Dieu. Voyez-vous? Allez. Prenons Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. Nous pouvons lire Hébreux 12, verset 14. Il est écrit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, virgule, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est. Il faut que le nouveau-né apprennent ces deux mécanismes. La purification et la sanctification. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a vu ça l'année passée et on peut toujours réécouter toutes ces prédications via Internet. Donc, quand la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne faut pas commencer à accommoder la parole au goût du jour. Non, monsieur. Il faut dire les choses d'une manière franche. Hey, chef, ici, là où tu es entré, il ne faut jamais oublier la sanctification et la purification. Alléluia. Puisque là, déjà, la base est bien posée. Hein? Quand la base est bien posée, on peut maintenant construire. Troisième chose à enseigner aux nouveaux convertis, on doit apprendre aux nouveaux convertis à prier sans cesse. Ah oui, nous savons ça. Nous devons prier tous les jours, nous le savons. 1 Thessaloniciens 5 nous dit, prier sans cesse, n'est-ce pas? Et quand nous prenons Luc 21, 21, verset 36, nous pouvons lire aussi, « Veillez donc et priez en tout temps. » Veillez donc et priez en tout temps. Tu dois rester éveillé, vigilant, vigilant. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Toi qui dors, réveille-toi. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, voyez-vous, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voyez-vous? Voyez-vous? Il faut lui montrer l'importance de cette pratique de la prière. Il faut qu'il comprenne que la prière devrait être comme la respiration. Alléluia. Tu n'as pas besoin de penser à respirer. Tu respires automatiquement, n'est-ce pas? Normalement, à toute situation, la prière devrait être notre première réaction. À toute situation. Faute de bonne direction, sur ces points, bien de nouveaux convertis déclinent et bientôt vivent très loin de Dieu. Par exemple, on peut trébucher, on peut tomber. Maintenant, au lieu de prier, il se sent incapable de prier. Au lieu de surmonter ses sentiments, au lieu d'aller aussitôt auprès du Seigneur, de lui confier la faute pour obtenir le pardon, Satan prendra le dessus. Tu sais, toi, au menu, ça ne sert à rien d'aller, il ne t'écoutera pas. Dans la position où tu es là, non, n'ose même pas. Et toi, bon, tu seras convaincu, je vais attendre que le temps fasse le travail à ma place. Hé! Papa, maman, il ne faut pas te mettre à parlementer avec ta conscience. On ne parlemente pas avec la conscience. Il faut obéir à sa conscience. Parce que la conscience, c'est un témoin. Et tu dois te rendre compte que le chrétien ne doit pas régler sa marche d'après la raison. Une explication peut satisfaire l'intelligence, mais jamais la conscience. Alléluia. Tu peux commencer à te justifier, à donner des explications pour te sentir un peu à l'aise, mais la conscience ne sera jamais à l'aise. Alléluia. Quand il y a un couac, la conscience ne sera jamais à l'aise. Et cela me permet maintenant de déboucher sur le quatrième enseignement qu'il faut donner aux nouveaux convertis. Il faut apprendre aux nouveaux convertis à cultiver une bonne conscience. Alléluia. Il doit apprendre à cultiver une bonne conscience. Ça ne viendra pas comme ça. Avoir une bonne conscience, qu'est-ce qu'on peut entendre par avoir une bonne conscience? Avoir la conscience, avoir une bonne conscience, c'est-à-dire avoir la conscience tranquille, en paix. N'avoir rien à se reprocher. Être sûr d'avoir bien agi. Chaque fois que tu es dans une situation, quand tu sors de là, il faut que tu te poses la question, ai-je bien agi ou pas? Et là, il faut que tu écoutes la voix de ta conscience. Alléluia. Et dans sa première lettre à Timothée, 1 Timothée 1, écoutons ce que Paul lui dit. Timothée 1. Paul dit ceci à Timothée, verset 19. Il dit, commençons au verset 18 pour bien comprendre le verset 19, n'est-ce pas? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Comment tu vas combattre le bon combat de la foi? Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. En gardant la foi et une bonne conscience. Et il va plus loin en disant, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Paul exhorte Timothée à garder la foi et une bonne conscience. Il fait de cette bonne conscience une condition pour garder la foi. Alléluia. Donc les deux là marchent toujours ensemble. Une bonne conscience est réglée par la parole. Une bonne conscience remplit une fonction de témoin. Elle instruit l'esprit de l'homme sur son état devant Dieu. L'esprit est capable de te parler par ta conscience. Paul déclare ceci dans Romains. Quand je dis, l'esprit est capable de te parler par ta conscience, Romains 9, verset 1. Paul dit ceci, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par l'esprit. Vous avez vu? Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est clair. L'Esprit est capable de te parler par ta conscience. Et quand tu n'écoutes pas ta conscience, tu seras à l'ouest. Ou tu seras au fond du puits. Ça, c'est sûr et certain. C'est pourquoi nous devons apprendre aux nouveaux convertis à ne pas blesser ni étouffer la conscience. Alléluia. Ils doivent entretenir l'habitude de l'écouter, qu'elle soit toujours prête à rendre un arrêt rigoureux en toute occasion. Alléluia. On ne parlemente pas avec sa conscience. Quand elle clignote, sois vigilant et sois attentif pour entendre ce que l'Esprit veut dire à travers ta conscience. La fidélité à la conscience est la première, je dis bien, la première marche vers la sanctification. Puisque chaque fois que tu écouteras la voix de ta conscience, tu reviendras. Alléluia. Tu reviendras. Ah, non. Je ne m'engage pas dans cette voie. Non, je renonce à ceci. Parce que tu as écouté ta conscience. Mais attention, il y a des gens dont la conscience est anesthésié, dont la conscience est dans le coma. Alléluia. Alors là, c'est compliqué. 5. Qu'est-ce que nous devons apprendre puisque à Pierre, on dit, paie mes agneaux. On doit apprendre aux nouveaux convertis qu'ils ont comme tel renoncé à eux-mêmes et à leurs biens. Ah! Il est écrit ceci. 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous lisons. Nous lisons ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Ah oui. Donc il faut que les nouveaux convertis comprennent qu'être chrétien, c'est avoir renoncé à soi-même et être entièrement consacré à Dieu. Tu es tout simplement administrateur des biens de Dieu. Ne commence pas à utiliser le temps de Dieu n'importe comment. Ne commence pas à trimballer le corps de Dieu n'importe où. Non, monsieur, il ne te suivra pas. Tu ne seras pas au même diapason que lui. Il ne te suivra pas. Et ça, il faut que l'agneau comprenne cela. C'est un administrateur des biens de Dieu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, doit être pour la gloire de Dieu. Très important. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, doit être pour la gloire de Dieu. Autrement dit, tu deviens partenaire de Dieu. Partenaire de Dieu à 100%. Ce que Dieu dit, c'est ça que tu dis. Tu fais comme si Dieu parlait à travers tes lèvres. Il faut que l'agneau comprenne cela. Alléluia. Le sixième enseignement, on doit apprendre aux nouveaux convertis à faire leurs devoirs. Puisqu'il trouvera des gens endormis. Et si lui imite ces gens endormis, lui aussi ne comprendra pas qu'il faut être au service. Alléluia. Alors il faut qu'il apprenne à faire son devoir. Il est écrit dans, prenons d'abord 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Verset 5. Paul dit à Timothée ceci, 2 Timothée 4, verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alléluia. Remplis bien ton ministère. Et Luc 17 nous apprend ceci. Luc 17, verset 10. Nous lisons. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui est, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voyez-vous? Il faut que le nouveau converti soit soigneusement enseigné que lorsque le devoir se présente à eux, ils doivent le faire. Quelque morne que puisse être leur sentiment, si le devoir appelle qu'ils le fassent, très probablement, les sentiments que vous entendez, que vous attendez plutôt, ne viendront que lorsque vous aurez commencé à faire votre devoir. Tant que tu n'auras pas cette capacité de travailler, rien ne se passera. Dans le message « Entendre, reconnaître et agir » à la page 23, paragraphe, à la page 23, je vais voir les paragraphes. Paragraphe 57. Il est écrit ceci. Paul a entendu, il a reconnu et il s'est mis à l'œuvre. Alléluia. Tu entends, tu reconnais et après tu dois agir. Il a dit alléluia. C'est comme si nous sommes assis sur la rive maintenant même. Pourquoi? Dieu l'a dit. Tout est terminé. Dieu l'a dit. Je suis en route. Ainsi, c'est de cette façon que cela s'est passé. C'est de cette façon que cela se passe toujours. Entendre, agir et croire. Alléluia. Quand toi, tu vas entendre, il faut que j'ai tel sentiment pour que je me mette au travail. Cher ami, tu es en train de filer du mauvais coton. Septième leçon, nous allons nous arrêter là-bas. Septième leçon à apprendre aux nouveaux convertis. On doit apprendre aux nouveaux convertis à rechercher non ce qui est agréable, mais c'est qui est utile. Waouh! Ça veut dire quoi? On doit apprendre aux nouveaux convertis à rechercher non ce qui est agréable, mais ce qui est utile. Il est écrit dans 2 Corinthiens ceci. Verset 23. Paul témoigne, puisqu'on est en train de dire, on doit apprendre aux nouveaux convertis à rechercher non ce qui est agréable, mais ce qui est utile. Paul témoigne de son expérience. Verset 23. Il dit, « Sont-ils ministres de Christ ?» Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger des morts. Verset 27-28. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voyez-vous, ça c'est la vie de Paul. Qu'on enseigne ouvertement aux nouveaux convertis à ne pas compter sur une vie de joie et de triomphe. Ah, mais alors, vous savez bien qu'ils avaient un mode de vie dans le monde. Alors maintenant, ils se réjouissaient tous les jours. ils étaient dans des cours, ils étaient dans des concerts, ils étaient dans ces sites, dans les expositions, dans des foires, dans cela. Et maintenant, toi, tu vas commencer à lui dire, « Ah non, tu dois chercher, non ce qui est agréable, mais ce qui est utile. » Tu vois ça? Donc, la vie chrétienne, elle est vraiment embêtante, là. Hein? Ça n'ira pas. Frère, dans la chrétienté, notre joie vient de Dieu, qui est amour. Alléluia. La joie est la surabondance de l'amour. La joie chrétienne trouve tout d'abord son origine dans la certitude de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul, quand il s'adresse aux Philippiens, Philippiens 4, verset 4, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Philippiens 4, verset 4, il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voyez-vous? Je le répète, réjouissez-vous. La joie chrétienne trouve, comme je disais tout à l'heure, tout d'abord son origine dans la certitude de l'amour de Dieu. La joie chrétienne est différente du plaisir futile et superficiel qu'on peut éprouver parfois en mangeant, parfois en buvant, parfois en dansant. Non, la joie de Dieu ne trouve pas sa source là-dedans, mais la joie de Dieu trouve sa source en Christ lui-même. Alléluia. Même dans l'affliction, même dans les combats, mais quand lui sera là, il te donnera une joie que le monde ne peut pas donner. Mais bon, pour un agneau, oui, bah attends. Il ne voit pas la réalité de la chose. Il faut que toi, brebis, qui es dans l'assemblée, tu vives d'une manière conséquente. Alléluia. Il faut expliquer aux nouveaux convertis. Ils peuvent être appelés à passer par des épreuves ardentes. Il faut le leur dire. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans les assemblées un grand nombre de jouisseurs spirituels qui passent leur temps à chercher le moyen d'être heureux et non d'être utile. Ah oui. Sans jamais utile. Avec les prières. Non, ça c'est pour Frère Benoît. Ça c'est pour Frère Benoît et son équipe et les autres. Mais venez, nous allons un peu nous mettre à genoux pour des âmes quelque part. Ah non. Ah bon, il y a l'anniversaire de Frère Albert. Ah oui, est-ce qu'il m'a invité? Quand il n'a pas invité, le Frère Albert a des problèmes. Voyez-vous? Des jouisseurs. Ça c'est bien dommage. Alléluia. Il faut le dire franchement. Pierre, paix, mes agneaux. Par des instructions appropriées, les nouveaux convertis peuvent être amenés à croître spirituellement. Alléluia. Mais c'est un sujet qu'on a presque perdu de vue dans les assemblées. C'est vrai. Et c'est pour cela que l'Esprit m'a dit, reviens à ça. C'est très important. Vous allez sortir, vous allez témoigner, vous allez rendre témoignage de la vérité. Et après, comment vous allez vous comporter par rapport à ces gens? Alléluia. Donc, c'était important que cela soit dit encore ce soir. Enseignez aux nouveaux convertis d'avoir pour but, et seul but, d'être pieux dans toutes leurs affaires. Alléluia. Parce que c'est la fondation. Ils doivent être pieux dans toutes leurs affaires. Il n'y a pas... Non, ici, bon, ça va. On reviendra après. Aujourd'hui, non. Une parenthèse. On va la fermer après. Non, monsieur. Non, monsieur. Il faut qu'ils sachent, on ne peut donner le nom des chrétiens qu'à ceux qui veulent se couper la main, s'arracher l'œil, de renoncer à elle-même pour Christ. Sinon, tu oublies. Alléluia. Sinon, tu oublies. Voilà ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce soir. Paître les agneaux du Seigneur. Alléluia. Alors, il faut le faire méthodiquement et d'une manière conséquente pour que le caractère de ce nouveau converti soit bien formé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
Oh, quand je songe à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi,